Bonsoir, je suis Agnès Terrier, la dramaturge de l'Opéra Comique, et je suis ravie de m'adresser aux membres du cercle Favart. Surtout, alors je vais enlever mon masque d'ailleurs, parce que quand on s'exprime, on a le droit d'enlever son masque, il paraît. J'en profite. Je suis ravie de m'adresser à vous, parce que parler à des mécènes de l'Opéra Comique pour évoquer Beethoven, qui n'aurait pas été le grand musicien qu'il est devenu sans les mécènes, qu'il a su rassembler autour de lui et qui ont su le soutenir pendant toute sa carrière, c'est assez émouvant. Beethoven, c'est le premier musicien libre d'Europe, hein, le premier musicien à ne dépendre d'aucun prince ou d'aucun archevêque, je pense à Haydn et à Mozart, mais sans les mécènes, il n'aurait jamais avancé dans la vie, et il n'aurait jamais réussi à accomplir sa volonté, qui était d'offrir la musique au peuple, au monde entier. Et c'est ce qu'illustre un peu Fidelio ce soir. Fidelio, c'est le seul opéra de Beethoven, et c'est aussi, c'est la raison pour laquelle nous le donnons, un opéra comique. C'est un Singspiel, comme on dit alors en Allemagne, mais ce n'est pas un Singspiel comme La Flûte enchantée avec une histoire merveilleuse. C'est un Singspiel du début du romantisme, c'est un Singspiel pour lequel Beethoven a pris soin de choisir un sujet contemporain qui lui permettait d'exprimer ses valeurs et aussi de mettre ses émotions, tout ce qu'il vivait, et ce qu'il vivait en l'occurrence au tout début du 19e siècle, à 27-30 ans, au moment où il s'attache à cette histoire et où il se met à la composer. Ce qu'il vit, c'est évidemment une surdité croissante qui va le couper de la société et qui va en premier lieu lui faire faire un deuil de tout projet matrimonial. Beethoven est un homme qui a été plusieurs fois amoureux, on cherche encore qui est l'immortel bien-aimé, mais en revanche, Beethoven ne s'est jamais marié, il n'a jamais connu l'amour conjugal, et il était très certain, très convaincu qu'il ne pouvait pas faire peser sur une femme le poids de son infirmité. Et il a donc consacré toute sa vie à la musique. Et cet homme qui se murait progressivement dans le silence, enfin qui était séparé du monde des sons et de l'expression des émotions par la maladie, et cet homme qui renonçait à une épouse alors qu'il avait tellement envie d'avoir une famille, cet homme a trouvé un livret contemporain qui raconte l'histoire d'une part d'un homme emmuré à qui qu'on prive de liberté et de lumière, et d'autre part d'une femme, d'une épouse, qui cherche absolument à retrouver cet homme et qui veut le libérer. Donc un livret totalement approprié à son état d'esprit, qui véhicule les idées de liberté, de justice, dont Beethoven était épris. Il avait été très passionné par le déclenchement de la Révolution française. Il avait 18 ans au début de la Révolution française et il vivait à Bonn, donc sous la houlette du prince archevêque de Cologne, qui était l'un des frères de Marie-Antoinette. Il avait surveillé de près toute cette circulation des idées, ce frémissement démocratique. Et puis, une fois installé à Vienne, très tôt, au début du 19e siècle, lorsqu'il a commencé à vraiment travailler, se faire connaître comme musicien et être sollicité, il a espéré pendant un moment venir à Paris, faire une partie de sa carrière à Paris. Paris faisait rêver les musiciens du 18e siècle, vous le savez, Gluck est venu séjourner longuement à Paris, Mozart est venu deux fois, c'était plutôt infructueux pour lui. Mais Beethoven a aussi fait partie de ces artistes qui étaient fascinés par les idées de la Révolution française, les idées héritées des Lumières et les œuvres qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, circule dans toute l'Europe grâce à Charles-Simon Favart, dont cette salle porte le nom, parce que Charles-Simon Favart était au milieu du XVIIIe siècle, mais en vie, hein, quand Beethoven découvre son livret et identifie son sujet. Charles-Simon Favart était l'auteur de livrets d'opéra comique majeurs et également l'artisan de la diffusion de l'opéra comique dans toute l'Europe. C'était le correspondant dramatique de l'équivalent ministre de la Culture à Vienne. Donc capitale impériale, hein, qui permettait de faire circuler très largement les œuvres en Europe. Et Beethoven, comme auparavant Mozart ou Haydn ou Gluck, recevait très régulièrement ce qui était produit à Paris. Et en 1803, il a d'abord été sollicité par un directeur de théâtre à Vienne qui s'appelait Schikaneder et qui dirigeait le Theater an der Wien. Et Schikaneder, ça vous dit quelque chose parce que c'est le librettiste de La Flûte enchantée et le premier Papageno. 12 ans plus tôt, Schikaneder avait donc créé le dernier opéra de Mozart, un Singspiel, un opéra comique, et il souhaitait continuer dans cette veine. Il a donc sollicité Beethoven pour écrire un opéra comique. Beethoven avait 30 ans et il était très célèbre, très réputé, mais curieusement, par rapport à tous ses contemporains, il ne faisait pas d'opéra. Il était connu pour ses concerts, pour sa musique symphonique, pour son immense talent de pianiste, allez-y madame, et pas pour l'opéra, donc que toutes les institutions rêvaient d'avoir un opéra de Beethoven. C'est Schikaneder qui convainc Beethoven de s'y mettre, mais le livret de Singspiel qui lui propose, sur une histoire, un sujet fantastique, comme un conte de fées, ne plaît pas du tout à Beethoven. Et Beethoven reçoit, parmi tous les ouvrages parisiens qui circulent, reçoit un livret pour lequel il a un coup de foudre. Et ce livret s'appelle « Léonore ou l'amour conjugal ». C'est son titre, car c'est un livret parisien. C'est un opéra comique qui a été créé en 1798, donc 3-4 ans après sa création parisienne, il arrive entre les mains de Beethoven. Beethoven le lit et dit « On va me le traduire en allemand et je vais en faire un opéra comique allemand, je vais en faire un Singspiel ». Cet opéra comique, alors là, c'est un petit peu dommage pour nous, n'a pas été créé à l'opéra comique. Il a été créé dans une institution qui était tout près d'ici, qui avait ouvert au début de la Révolution française, au moment où on a libéré l'exploitation des théâtres, où on a libéré la vie théâtrale et permis à des institutions nouvelles, privées ou parrainées par différentes personnalités, d'éclore. Hein. Avant la Révolution française, il y avait un régime de monopole, donc il y avait l'opéra, la comédie française, l'opéra comique, ça s'arrêtait là. Mais au début de la Révolution française, on ouvre la liberté des théâtres, et à ce moment-là, en 1791, une institution rivale de l'opéra comique qui était ici dans la salle Favart apparaît rue Feydeau. Je fais ça tout le temps parce que rue Feydeau, c'est vraiment entre ici et la Bourse. Et dans la rue Feydeau apparaît cette institution qu'on va vite appeler le théâtre Feydeau, où on fait aussi de l'opéra comique, mais plus pathétique que ce qu'on donne ici. L'opéra comique était une institution où on donnait des ouvrages légers, joyeux, parfois un peu grivois, et qui dépeignait les conditions sociales contemporaines. Et l'opéra comique reste pendant la période révolutionnaire un théâtre très fidèle aux idéaux révolutionnaires et aux messages démocratiques et au contact direct avec le public le plus humble. En revanche, au théâtre Feydeau, on fait aussi de l'opéra comique, mais plus pathétique, en développant des passions et des personnages plus héroïques, et on est plus en prise avec ce qui reste de la grande culture aristocratique, même si on fait de l'opéra comique. Et le théâtre Feydeau, rue Feydeau, est un théâtre où gravitent beaucoup d'artistes et de spectateurs plutôt réactionnaires, monarchistes, qui souhaitent le retour du roi. Voilà pour vous dessiner un petit peu le périmètre du quartier. Et c'est là-bas, au théâtre Feydeau, qu'est apparu Léonore ou l'amour conjugal, un opéra comique créé en 1798. La pièce est de Bouilly et la musique est de Gaveau. Gaveau, un grand ténor de la troupe de Feydeau, qui est connu pour ses sympathies contre-révolutionnaires. Et l'œuvre, en 1798 et les années d'après, remporte un succès incroyable. Elle reste au répertoire. C'est la cinquième œuvre la plus jouée du théâtre Feydeau, qui joue tous les jours. Et ça fait partie des phénomènes qui, parfois, certains soirs, privent l'opéra comique de son public. Pour aller très vite, l'opéra comique a absorbé cette institution en 1801. Et s'est installé du même coup dans le théâtre Feydeau parce que la salle Favart commençait à se dégrader. Donc l'opéra comique a récupéré Léonore ou l'amour conjugal dans son répertoire et a continué à jouer cet opéra comique de Bouilly et Gaveau pendant quelques années, et puis l'a oublié. Mais entre-temps, donc, Beethoven reçoit le livret et se dit « c'est ça qu'il me faut ». Et qu'est-ce que ça raconte? Ben, vous le savez, ça raconte l'histoire d'un homme emprisonné de façon injuste pendant une période révolutionnaire, de changement de régime, extrêmement trouble, on ne sait pas très bien. Et la décence, la correction veut que l'action soit déplacée en Espagne. C'est un peu comme ça pendant la fin de l'Ancien Régime et encore pendant toute la période romantique. Les sujets un peu sensibles, on les met en Espagne. Mais en vérité, c'est inspiré d'un fait réel qui s'est déroulé sous la Terreur. Et Bouilly va le raconter un peu plus tard dans ses mémoires. Je me suis inspiré d'une histoire vraie. Et il y a plein d'histoires comme ça dans la vie politique au cours de ces années tourmentées. Donc un homme incarcéré, sans procès et oublié, dans un cachot, victime qui plus est de la vindicte du gouverneur de la prison, qui lui en veut personnellement, donc qui l'a enfermé, qui l'a mis vraiment au secret. Et l'épouse de cet homme, de cet aristocrate, qui s'appelle Léonore et qui veut retrouver son mari. Il y a une solution pour elle en ces temps troublés, se travestir et se faire engager comme gardien dans la prison. Et là, mener l'enquête pour voir si elle va retrouver son mari, si elle va l'identifier parmi les prisonniers, et une fois retrouvée, si elle va pouvoir le faire sortir. Entre l'arrestation de l'époux et le moment où cette femme, Léonore, retrouve son mari Florestan, il se déroule deux années pendant lesquelles il a vécu des heures atroces dans son cachot, il est de plus en plus déshydratée, de moins en moins alimentée, et bientôt guettée par la mort, puisque le gouverneur veut sa mort. Et elle, pendant 2 ans, elle a accompli un chemin de croix, d'abord rencontrer plein de personnes officielles, faire son enquête, finalement cibler la prison où peut-être il est retenu, se travestir et entrer dans cette prison. Travesti très dangereux. Et Léonore fait à l'égard de son mari Florestan ce que fait Orphée à l'égard d'Eurydice. Elle descend dans les profondeurs d'une forteresse pour voir si elle peut retrouver son époux encore vivant et le ramener à la lumière et le ramener à la vie. Et cette histoire magnifique, eh ben, elle résonnait énormément pour Beethoven. Et il a repris le livret parisien in extenso, il se l'est fait traduire, il a gardé sa structure, il a gardé tous les endroits où il y avait des scènes musicales, il les a respectées, il a composé sa propre partition sur ce livret. Il n'était pas le seul, Mayer et Paer, 2 autres compositeurs qui gravitaient dans la culture germanique, s'en sont emparés au même moment, mais eux, ils ont fait traduire le livret en italien. Parce que la grande tradition lyrique, elle était italienne dans les pays de langue allemande. Et il fallait un Beethoven pour dire « Non, moi je veux le composer sur un livret allemand, je veux que les gens, mon public viennois me comprennent. Je ne veux pas passer par le truchement de cette langue littéraire qu'est l'italien et me couper du public populaire. » Et l'œuvre a été créée en 1805, mais malheureusement, en novembre 1805, à un moment où toute l'aristocratie viennoise a quitté la ville et où ne reste plus que le peuple qui ne peut pas partir dans ses maisons de campagne et où sont arrivées les armées napoléoniennes. Parce que Vienne a été assiégée et Vienne est occupée au moment où l'œuvre est créée. Donc les 4 représentations de novembre 1805, la première a lieu 12 jours avant Austerlitz, ne remportent aucun succès. Beethoven n'a pas son public. Il attend que la situation géopolitique se calme. Au printemps suivant, il reprend son œuvre, il la modifie, il la remet en scène dans le même théâtre, le Théâtre an der Wien. Pas de succès. C'est-à-dire que le succès aurait pu arriver, mais au bout de 2 représentations, Beethoven a dit « Ah non, je ne suis pas content ». Ça ne marche pas, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait de ma musique, je retire tout. Et après, Beethoven va mettre Léonore dans un carton et ne plus y toucher. Alors, ce n'est pas Léonore d'ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, Léonore, on dit Léonore à propos des 2 premières versions de 1805 et 1806, mais à l'époque, ça s'appelait Fidelio parce que les 2 compositeurs qui avaient écrit sur un livret traduit en italien, eux, avaient appelé leur pièce Léonora. Donc, Beethoven a mis son opéra dans un carton, puis il a continué à travailler comme il le faisait, avec des orchestres, avec des musiciens, pour son public de concert, et basta. Mais plus aucun sujet d'opéra ne l'a intéressé. Et il a fallu attendre 1814 pour que les chanteurs qui avaient créé les rôles principaux, à savoir le ténor Florestan, la soprano qui chante le rôle de Fidelio, c'est un rôle énorme, hein, elle est présente en scène du début à la fin de l'opéra. C'est un opéra en 2 actes, mais elle, on la voit tout le temps. Et Florestan, lui, on le voit apparaître au fond de son cachot au début du 2e acte. Et puis, le 3e chanteur qui était très important, c'était Pizarro. Il a un nom espagnol, puisque je vous ai dit que l'action est déplacée en Espagne. C'est le méchant gouverneur de la prison. Pizarro, au passage, rôle créé par Sebastian Mayer, le beau-frère de Mozart. Parce qu'on est quand même très peu de temps après la mort de Mozart. Hein, il est mort en 1791. Donc à la création de Fidelio, Mozart aurait eu à peine 50 ans. Donc Sebastian Mayer a créé le rôle de Pizarro et avec ses 2 camarades, il va voir Beethoven en 1814. Il lui dit « Est-ce que tu peux nous remonter Fidelio ? Fais les remaniements que tu veux, mais on voudrait rechanter ces rôles qui sont extraordinaires et on a besoin d'argent, donc si on pouvait faire quelques représentations à notre bénéfice, ce serait très bien. » Et Beethoven, par amitié pour les chanteurs, reprend Fidelio et il établit la 3e version que vous allez entendre ce soir. C'est la version définitive, c'est la version qu'il aime le plus, c'est la version... Il a fait évoluer le personnage de Léonore de version en version pour en faire une femme toujours plus forte, toujours plus résolue, toujours plus courageuse, avec cette hauteur d'esprit qui fait qu'au moment où elle peine à identifier si c'est son mari dans le cachot ou pas, elle dit « Qui que tu sois, je te sauverai ». C'est-à-dire que Léonore accomplit un véritable parcours initiatique dans cette prison. Elle transforme beaucoup les gens autour d'elle, mais elle accomplit un parcours initiatique, elle vient sauver l'humanité dans ce prisonnier. Et même si ce n'est pas son mari, elle lui sauvera la vie. Donc tout ça s'est renforcé au fil des versions. Et en 1814, l'œuvre remporte un succès énorme. On est quelques semaines avant l'ouverture du congrès de Vienne. Donc l'œuvre va rester à l'affiche et toute l'Europe aristocratique, diplomatique, culturel va affluer à Vienne et va aller voir Fidelio au théâtre. Et du coup, très rapidement, l'œuvre va être diffusée dans toute l'Europe. Weber va être l'un des premiers compositeurs à diriger Fidelio à Prague et puis dans d'autres villes. Très rapidement, comme une traînée de poudre, l'œuvre va être traduite en italien et va être donnée un peu partout. Alors à Paris, il faut attendre 1829 pour que l'œuvre arrive, l'œuvre de Beethoven arrive, 1829, 2 ans après la mort de Beethoven, et à la faveur d'une invitation d'une troupe allemande à donner Fidelio ici dans la salle Favart. Chaque printemps, une troupe étrangère venait donner son répertoire dans la salle Favart. Donc en 1829, c'est une troupe où chante la fabuleuse Wilhelmine Schröder de Vrindt, qui est une soprano incroyable, qui a pris le rôle à la suite de la créatrice devant Beethoven, et Beethoven a dit « elle est géniale ». Et pour information ou rappel, Wilhelmine Schröder de Vrindt va être l'égérie de Berlioz, qui découvre Fidelio ici en 1829, et l'égérie de Wagner, qui va lui composer tous les premiers grands rôles féminins. Et Wagner a dit, son interprétation de Léonore m'a modelée, m'a influencée pour toute ma vie. Donc l'œuvre est donnée ici en allemand, comme un Singspiel, et puis après, la troupe s'en va, et on attend pendant pas mal de temps avant de revoir Fidelio, cette fois-ci au théâtre italien, chanté en italien. Et puis ensuite, il va y avoir des versions françaises qui vont succéder au XIXe siècle, et une en particulier, ici même, en 1898. 1898 était le centenaire de la création de la version Bouillie et Gaveau, mais 1898, c'est aussi la réouverture de la troisième salle Favart, après une reconstruction intégrale, et le directeur de l'époque, Albert Carré, offre à André Messager, qui est son directeur musical, comme première grande nouvelle production de son mandat et de cette troisième salle Favart, Fidelio. Alors Fidelio en version française, mais Fidelio, c'est quand même très beau d'ouvrir l'opéra comique avec Fidelio de Beethoven plutôt qu'avec un grand titre du répertoire français. Et Fidelio est resté une œuvre maison jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après quoi, dans l'entre-deux-guerres, Fidelio est passé dans le répertoire de l'Opéra de Paris, où il a été donné d'abord par des troupes allemandes, puis par la troupe de l'Opéra de Paris. Donc ça fait, alors depuis 2008, où il y avait eu une production de Fidelio au Palais Garnier, on n'avait pas redonné Fidelio en version scénique à Paris, et pour nous c'était très important de programmer Fidelio parce qu'on a une salle qui a exactement les dimensions et l'acoustique des théâtres dans lesquels a travaillé Beethoven. Outre que c'est un opéra comique, vous bénéficiez aussi des conditions acoustiques idéales. Et bien entendu, ça faisait des années qu'on voulait faire Fidelio, mais on a attendu d'avoir le bon chef, le bon ensemble, orchestre qui joue sur instruments d'époque, le bon casting de chanteurs, choisi avec soin des chanteurs mozartiens. Alors, je précise d'ailleurs qu'on a une soprano merveilleuse, Siobhan Stagg, qui ne peut pas assurer vocalement le rôle de Léonore qu'elle a répété pendant toutes les répétitions, et qui va donc être doublée. Ce soir, elle va jouer le rôle, mais elle va être doublée par Jacqueline Wagner, qui est aussi une grande Léonore. On est très content d'avoir la chance de bénéficier du soutien de Jacqueline Wagner pour faire la représentation. Mais de même que le personnage de Fidelio est double, puisque c'est une femme travestie en homme, une Léonore qui se fait passer pour un Fidelio, de même, on a en quelque sorte deux interprètes ce soir, l'une pour le théâtre et l'autre pour le chant. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, voilà, vous êtes dans le lieu où il faut retrouver Fidelio et écouter Beethoven, le lieu qui... vous permet de prendre conscience, d'apprécier le fait que Beethoven ait été pris de cette dramaturgie de l'opéra comique et de la force qu'elle avait, la force de cette dramaturgie pour transcender les genres musicaux. Et vous allez voir, toutes les pièces musicales de la partition sont incroyables. On joue le Singspiel, c'est-à-dire à la fois tous les morceaux de musique et les dialogues parlés en allemand. On les a un tout petit peu raccourcis, les dialogues parlés, et on a un tout petit peu modernisé l'allemand pour que le public germanophone soit agréablement surpris et en phase avec les paroles, parce que sinon l'allemand avait un peu vieilli quand même. Mais on a vraiment respecté les proportions de l'œuvre. Il y a une partie bruitage qui est très intéressante sur les dialogues parlés, parce que ça correspond aux usages du Singspiel de l'époque. Sur les scènes de Singspiel, on pratiquait beaucoup les bruitages. Donc vous allez vraiment vous retrouver dans l'acoustique privilégiée pour profiter de Beethoven. Je vous souhaite une très belle soirée.